Très bien, merci. Ben voilà, vous avez donc dit qu'on allait s'intéresser aux représentations de l'écriture et de son apprentissage à partir de l'étude de déclaration d'enseignants, en effet, du CM2 et de 6e. Alors, à l'origine, nous sommes tous les deux enseignants, nous avons tous les deux enseigné en collège avant d'être impliqués dans la formation des enseignants. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques années, ça nous fait 25 ans dans la formation continue et initiale des enseignants. Et on est venu progressivement à la recherche sur l'écriture et plus particulièrement à l'étude des représentations.
Bon, nous voulions vous dire que nous avions choisi d'éclairer un aspect de la compétence écrire qui nous paraissait susceptible de nourrir la réflexion sur l'écriture dans les différentes disciplines. Et pour nous, c'était opportun, puisque c'est un peu au cœur de nos recherches. Donc, je m'appelle Jacqueline Lafont-Terranova. Comme l'a dit mon collègue Didier Collin, on a un long parcours commun et dans l'enseignement et dans la formation. Actuellement, je suis maître de conférence en sciences du langage. J'enseigne l'expression de communication à des étudiants en informatique dans un IUT, une filière technologique. Et quoi qu'on en pense, l'écriture est très présente dans mon département. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui se soucie beaucoup des liens entre l'usage du français, de l'écriture et la discipline de spécialité. Et par ailleurs, avec mon collègue Didier Collin, j'enseigne en master linguistique et didactique. Et je suis particulièrement chargée d'une UE centrée sur la didactique de l'écriture. Enfin, dans le cadre de notre laboratoire, j'ai entendu qu'on soulignait que nous appelions d'un laboratoire en initiale 3L. C'est un nom provisoire, parce que comme tous les laboratoires, on change souvent de nom. Et en ce moment, c'est la mode de changer de nom. Mais pour l'instant, on s'appelle Laboratoire Ligérien de Linguistique. Et dans le cadre de ce laboratoire très centré sur la linguistique, on a la chance d'avoir été accepté à titre d'équipe de didactique qui s'appuie sur les sciences du langage comme sciences contributives. Alors, le sigle n'est pas très euphonique. Hein, GORTF, Groupe Orléanais de Recherche en Didactique du Français, et je pourrais rajouter « et des langues ». Et je suis donc responsable de cette équipe du LLL. Et en collaboration avec mon collègue, nous animons un séminaire régulier de didactique où nous faisons venir des conférenciers. Au début, très courageux, c'était tous les mois. Maintenant, c'est plutôt tous les deux mois. Mais enfin, ça dure depuis 5-6 ans. Voilà.
Tout à fait. Donc Didier Collin, moi j'enseigne à l'IUFM, Centre Val-de-Loire, au site d'Orléans. Et donc nous travaillons ensemble, Jacqueline et moi, dans ces différentes instances. Et nous avons travaillé une première fois sur les représentations des enseignants en 2002, puis ensuite en 2006 sur les représentations des enseignants de collège. Alors c'est à partir des difficultés évoquées fréquemment par les enseignants à propos des écrits de leurs élèves que nous avons essayé, comme on disait tout à l'heure, de proposer un éclairage un peu différent sur la question de la production d'écrits en nous focalisant sur le rapport à l'écriture et sur les représentations, deux notions que nous allons définir au cours de notre exposé qui sera constitué de deux grandes parties. Une première sur notre cadre théorique, pourquoi pouvons-nous dire telle et telle chose, sur quoi nous appuyons-nous, d'où venons-nous, et une deuxième partie où on va vous présenter les premiers résultats d'une étude que nous sommes en train de mener sur les fameuses déclarations des enseignants de CM2 et 6e que nous avons recueillies. Alors, nous inscrivons bien évidemment en didactique du français, puisqu'il y a des enseignants polyvalents ou des enseignants de différentes disciplines. Donc, nous parlons pour notre part à partir de la didactique du français langue maternelle. Alors, nous disons toujours langue maternelle, même si nous savons que certains didacticiens du français emploient par exemple l'expression langue première, voulant souligner ainsi que tous les élèves francophones de France n'ont pas comme langue maternelle le français. Donc nous n'excluons pas du tout ces difficultés, mais nous avons conservé donc notre filiation avec la didactique du français langue maternelle. Donc dans cette didactique, nous appartenons aux recherches qui s'appellent rassemblées sous le grand nom didactique de l'écriture. La didactique de l'écriture prend en charge la réflexion, je dirais, de l'écriture en français, français en tant que discipline scolaire, et la didactique de l'écriture prend également en charge l'écriture dans les autres disciplines où le français est apparaît davantage comme transversal. Donc la didactique de l'écriture n'est pas exclusivement repliée, pour employer un terme un peu fort, sur la discipline français.
Mais on peut souligner que c'est quand même la didactique du français langue maternelle qui a largement contribué, en France en tout cas, à lancer la réflexion dessus et même la prise en charge de l'écriture dans les autres disciplines.
Dans les autres disciplines, voilà. Et à l'intérieur de la didactique de l'écriture, nous allons vous présenter le courant auquel nous appartenons, c'est-à-dire un courant qui met l'accent sur le processus d'écriture et sur l'acteur de ce processus, c'est-à-dire le sujet écrivant. Donc ce qui est un courant parmi les différents courants qui animent la grande sphère de la didactique de l'écriture.
On peut dire que ce courant a déplacé un peu le regard qu'on a habituellement quand on enseigne sur l'écrit produit, l'a déplacé de l'écrit produit à l'acteur qui écrit et au processus qui conduit à l'écrit.
Alors, l'émergence d'une didactique de l'écriture, on pourrait dire que la publication des réflexions sur l'enseignement du français par Jean-Claude Chevalier en 1983 a un peu déclenché une réflexion dans l'urgence, c'est-à-dire que il y a eu une émergence brusquement d'une réflexion intense sur l'écriture en français dans un premier temps, parce que ce rapport était très alarmiste, très alarmant et catastrophiste, en fait, hein, soulignant les différentes catastrophes. Donc c'était un rapport extrêmement sévère. Et il n'est pas étonnant qu'à partir de 1985, les recherches en didactique sur l'écriture ont été plus nombreuses. Hein. C'est ce que Christine Barret de Mignac signale en 2000, quand elle fait une capitalisation des différents écrits. Elle se dit que tout a quasiment démarré en 1985. Ce n'est pas étonnant parce que en 1983, le fait de dire que l'enseignement, l'écriture ne s'enseigne pas, que c'est quelque chose de très diffus, qui se fait tout seul dans l'improvisation, avec un repli sur le trio linguistique, orthographe, grammaire et vocabulaire, a enclenché, on peut dire, la réflexion. Et on peut dire qu'à partir de là, s'est développée une théorie d'écriture.
Oui, en fait, c'est l'interrogation sur les difficultés que rencontraient les élèves dans l'écrit qui a suscité l'interrogation sur qu'est-ce qu'enseignait l'écriture, qui jusque-là n'était pas une question qui se posait. On enseignait le français, les différentes composantes du français, et il y avait un petit peu l'idée que, par magie, le scripteur faisait la synthèse de tous les savoirs fort utiles pour écrire, mais n'avait pas un accompagnement pour réussir cette synthèse. Et donc, plusieurs didacticiens ont posé un paradoxe, ont vu que, en posant la question de qu'est-ce qu'écrire, ils ont soulevé le paradoxe sur lequel on vivait jusque-là, c'est-à-dire que l'écriture ne s'enseigne pas, c'est ce que je viens d'expliquer, elle est censée résulter d'autres apprentissages qu'elle-même. Alors, de nombreux didacticiens qui se sont référés les uns aux autres l'ont dit, le premier à l'avoir dit, je crois que c'est Alté, qui a été repris par Reuter dans un livre très intéressant sur enseigner et apprendre l'écriture, qui est paru en 1996. Donc, se posant cette question de qu'est-ce qu'écrire, se posant cette question des difficultés, les didacticiens ont réfléchi aux conditions d'un véritable enseignement de l'écriture, c'est-à-dire dépasser l'idée de cette synthèse magique, trouver des moyens moins magiques pour aider le scripteur, et en réfléchissant, en essayant de répondre à la question qu'est-ce qu'écrire, en fait, ils ont un peu essayé de répondre à la question que pose toute la formation, puisqu'elle s'appelle compétence écrire. Hein, et en se disant, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande boîte compétence écrire? Sûrement, il y a orthographe, grammaire, vocabulaire, mais il y a peut-être autre chose. Et il y a un article qui a fait date, c'est l'article de Michel Dabenne qui est paru en 91 dans la revue Repère, donc une revue de l'INRP, et qui s'appelle justement un modèle didactique de la compétence scripturale, c'est-à-dire qu'il a réfléchi à qu'est-ce qu'écrire pour aider les enseignants à faire écrire, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Et vous voyez que nous, on va employer tout au long de notre petit topo la notion de compétence scripturale qui renvoie un peu au titre de la formation compétence écrire. Michel Dabène a préféré utiliser l'expression compétence scripturale parce qu'il s'appuie beaucoup sur les recherches de Pétard, le linguiste Pétard qui en 70 a largement contribué à ce que tout le monde distingue plus clairement deux ordres langagiers, l'ordre de l'oral et l'ordre du scriptural, sans les distinguer uniquement par le biais du canal. C'est-à-dire, il ne suffit pas de passer par le canal de l'oral pour être dans l'ordre de l'oral. La preuve en est que quand on fait une conférence, on s'appuie sur beaucoup de documents écrits et qu'on n'est pas dans l'ordre de l'oral spontané. Et pour éviter cette confusion des canaux, Pétard d'abord et Dabène ensuite ont insisté sur le mot scriptural. On peut être dans l'ordre du scriptural en utilisant aussi le canal oral et vice-versa. Et donc, nous, on a gardé cette idée de compétence scripturale et ce qu'on essaye de décrire, c'est certains aspects de la compétence scripturale, pas tous, bien entendu, qui peuvent éclairer ce qu'on a dit au début, l'écriture dans les différentes disciplines.
Et on peut dire au passage que d'ailleurs, une des difficultés de certains de nos élèves, c'est d'écrire en restant dans l'ordre de l'oral, c'est-à-dire en ayant un écrit très spontané et en ayant finalement quelque chose qui arrive du langage intérieur et qui est simplement mis sur papier. Et ça, ce n'est pas l'ordre du scriptural, c'est l'ordre de l'oral. Alors que le canal apparaît comme écrit puisqu'il y a un support écrit. Voilà, donc c'est pour ça que la distinction est extrêmement intéressant.
Oui, je nuance juste en ce moment les recherches et notamment le fait que l'introduction des nouvelles technologies fait un petit peu vaciller les frontières entre l'oral et l'écrit, donc on est un petit peu moins ferme sur cette opposition très forte. Oui. Mais d'un autre côté, d'un point de vue didactique, ça reste pertinent de faire comme Michel Dabène, d'accentuer dans un premier temps cette différence, peut-être pour la faire percevoir, quitte à la nuancer ensuite.
Alors, on a fait une figure représentant la compétence scripturale telle que la présente Michel Dabène. Donc, lui n'avait pas fait de schéma, il a fait un document écrit. Donc là, on a créé une figure pour montrer que la compétence scripturale est un grand tout. Et quand on s'en occupe, on va toujours éclairer des aspects. Il est très difficile de tenir l'ensemble de toutes les composantes de cette compétence. Alors, on retrouve les savoirs et les savoir-faire, d'ailleurs qu'on sépare souvent pour commodité, puisqu'il y a une énorme interaction et il y a certains savoir-faire qui sont très difficiles à différencier du savoir. Mais bref, on reprend ce qui a été proposé. Donc, bien évidemment, ces savoirs sont nécessaires, ils sont indispensables. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est ce que nous avons mis en rouge, insister sur ce que Michel Dabène introduit en 1991, faisant franchir un saut énorme à la didactique du français, en disant qu'il existe donc ce qu'on appelle les représentations. Alors elles sont en rouge parce qu'on s'en occupe, elles sont en rouge également parce qu'elles pilotent, dans l'esprit de Michel Dabène, elles pilotent l'ensemble de la compétence scripturale, et les savoirs et les savoir-faire sont plus ou moins bien activés selon les représentations qu'a l'individu justement de la compétence scripturale, des savoirs et des savoir-faire. Alors les savoir-faire, je pense que vous en avez beaucoup parlé, tracer des lettres, orthographier, mettre en mots, mettre en texte, mettre en page, savoir copier, donc les savoir-faire sont multiples. Les connaissances graphiques, matérielles, linguistiques, discursives, voilà, on a une liste assez précise. Et puis les représentations, c'est une sphère qui est souvent un petit peu moins explorée. Donc on va essayer de l'explorer avec vous aujourd'hui.
Oui, d'autres chercheurs ont signalé l'importance des représentations avant Michel Dabène, mais je crois que son apport, c'est de l'avoir intégré dans la compétence scripturale. Ça fait partie du savoir écrire que de cultiver, d'approfondir un certain type de représentation pour avoir un meilleur pilotage de ses savoirs et de savoir-faire. C'est pas quelque chose en plus, c'est vraiment à l'intérieur, c'est ça son apport. Ouais. Ça permet pas uniquement aux chercheurs d'expliquer comment fonctionnent les scripteurs, ça aide le scripteur lui-même à fonctionner.
Tout à fait. Alors, les représentations, je pense que chacun d'entre vous en a entendu parler à sa façon. On redit donc une définition, par exemple, d'André Petitjean, qui est un didacticien du français. Donc, ce sont les produits de la pensée ordinaire, tels qu'elles se matérialisent dans les croyances, les discours, les conduites des individus. Une autre définition, donc, d'une sociologue, elle nous guide dans la façon de nommer, de définir les différents aspects de notre réalité de tous les jours, et dans la façon de les interpréter, de statuer sur eux, et de prendre une position à leurs égards, et de la défendre. Donc, dans ces deux définitions, on voit l'importance de ces représentations pour les didacticiens, pour l'enseignement, puisque c'est quelque chose qui fait partie de chaque individu. C'est indispensable à notre pensée pour analyser tout ce qui se passe autour de nous. Mais on le verra, la didactique a, considéré que ces représentations sont nécessaires et provoquent des points d'appui, mais aussi des obstacles. Et les didactiques ont souvent, d'ailleurs, réduit représentation à conception première en disant que c'était toujours un écart, un obstacle aux véritables apprentissages. Bon, c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus riche que parfois cette réduction qu'on a eue, je dirais, dans la pratique quotidienne.
On le verra dans l'étude des données qu'une représentation peut être déjà un premier pas vers une autre représentation et on peut s'appuyer dessus pour faire évoluer les représentations. Donc, ce n'est pas du tout uniquement à voir sous l'angle des obstacles. Mais enfin, là, on a choisi quand même de faire un éclairage sur les principaux obstacles repérés par les didacticiens. En tout cas, deux obstacles qui nous importent ici pour entrer dans l'écriture dans les différentes disciplines. Premier obstacle, vraiment fréquent, soulevé par Panlou, par Bourguin, l'écriture considérée comme un simple codage, comme la simple transcription d'un déjà-là, soit un oral qu'on transcrit tel que, soit une pensée qui serait un langage intérieur qu'on n'aurait plus qu'à mettre sur le papier. Elle préexisterait à l'écriture. Et cette représentation a largement été... Enfin, l'école est quand même pas pour rien dans cette représentation, donc c'est une représentation assez communément partagée. Et l'intérêt des recherches en didactique qui s'appuient sur les apports de, notamment des anthropologues, c'est d'avoir donné des outils pour lever cet obstacle et mieux le comprendre. Donc, la didactique s'est largement inspirée des travaux des anthropologues comme Goody, hein, qui en 79 a publié « La raison graphique ». Ce terme « la raison graphique », ça renvoie au fait que l'invention de l'écriture a bouleversé la façon de penser. Hein. On croit assez communément que l'écriture, dans ses origines, c'était plutôt des contes, des épopées, des mythes. Mais en fait, les premiers écrits de l'humanité, ce sont des listes. Des listes pour compter les marchandises. Alors, je vais peut-être choquer les femmes, mais dans les marchandises, il y avait aussi bien les jarres d'huile que les femmes, et encore en dernier, les esclaves, hein, qui étaient listés. On listait les éclipses, on listait les généalogies de rois. Et de toutes ces listes ont permis de passer de la parole qui passe, qui ne permet pas de retour facile sur ce qui a été dit, à l'exercice de sa pensée sur un espace graphique où on pouvait comparer des listes, passer des listes au tableau. Et toutes ces mises en rapport, finalement, ça a provoqué le balbutiement des sciences. Hein, des listes d'éclipses, on passe à l'astronomie, je vais très vite, hein, je résume vraiment au galop. Et des listes de généalogie, enfin des listes de rois naît l'histoire. Et même si vous lisez le décryptage de Goody par jeune ouvrier dans Naître en français, le chapitre sur l'écriture, on voit aussi qu'il y avait des proto-dictionnaires, des listes de mots, des premiers dictionnaires qui sont le premier outil de mise à distance de la langue et du langage. Hein. Donc une autre façon de penser. Et j'insiste sur les listes, ce n'est pas du tout la parole ordinaire. Donc là, l'écriture ne traduit pas de l'oral. C'est autre chose, une autre manière d'exercer sa langue. Donc tous ces travaux sur des anthropologues ont été repris par des linguistes comme des jeunes ouvriers, par des psychologues de la psychologie sociale comme Bourguin. Et maintenant, en didactique, en tout cas dans le courant dans lequel nous nous situons, c'est vraiment un bien commun que de... penser que l'écriture n'est pas un simple codage, mais que c'est comme une sorte d'objet pour penser avec. Alors, oui, vas-y.
Bah, ce qui, finalement, aujourd'hui, converge avec un autre courant de la didactique qui a mis en exergue la notion de littératie. Donc, c'est redire autrement ce qu'on avait appris par les anthropologues ou par des sociologues, des psychologues, des psycholinguistes, à savoir que l'écriture ne se réduit pas à une simple technique de codage d'un déjà-là, du stockage d'informations, et que, au contraire, la littératie va désigner des usages secondarisés du langage, c'est-à-dire que ce sont des usages de l'écrit dont beaucoup d'élèves ne sont pas familiers. Ils ont contribué, en fait, aux constructions et aux activités intellectuelles, et pas seulement à l'expression des opinions toutes faites ou des affects. Et donc, la littératie est devenue un objectif en didactique de l'écriture et de la lecture, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire entrer le plus d'élèves possible dans une littératie étendue. Alors, la littératie est à l'origine repose sur des études anglophones, et d'ailleurs, il y a parfois encore dans les articles une hésitation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'écrire comme en anglais avec un C, ou est-ce qu'il faut plutôt l'écrire comme en français avec un T. Alors, les didacticiens du français ont décidé donc d'adopter l'orthographe avec un T, mais les sciences de l'éducation, par exemple, comme Madame Bottier, met plutôt un C. Et le ministère de l'Éducation nationale aurait bien aimé qu'on parle de littérisme pour opposer à illettrisme. Mais le littérisme n'a jamais été adopté par personne, et donc c'est un mot qui n'existe pour l'instant, à ma connaissance, que dans le bulletin officiel de 2005. Et donc tout le monde parle bien de littératie, et c'est ainsi que tout le monde se comprend.
Ben, juste pour l'anecdote, je crois que dans notre bibliographie, on a deux références de Bottier. Je pense qu'elle n'utilise pas la même orthographe.
Voilà, ça y est, on l'a passé. Merci beaucoup. Oui, oui. Et donc,
Elle hésite entre les deux.
Elle hésite beaucoup, voilà.
Mais juste pour illustrer de façon concrète tout ce qu'on vient de dire sur l'écriture n'est pas un simple codage, dans l'UE dont je suis responsable, sur la didactique de l'écriture, il y a un petit mémoire à faire et les étudiantes sont très très angoissées en master 1 à l'idée de faire ce mémoire et elles me disent toujours, je dis les étudiantes parce qu'honnêtement j'ai pas vu beaucoup de garçons, elles me disent mais je veux pas l'écrire le mémoire, je sais pas du tout ce que je vais dire et donc j'ai rien à dire, je sais pas ce que je veux dire et donc il y a tout un dispositif pour leur faire prendre conscience que c'est en écrivant que petit à petit vont se construire des choses, des écrits intermédiaires qui vont permettre d'arriver au mémoire. Je raccourcis. Voilà. Et...
Oui, et donc dans la littératie, pour reprendre plus simplement, l'idée c'est que ce qu'on voit dans le socle main, etc., c'est que les élèves soient vraiment face à des écrits de plus en plus variés, de plus en plus diversifiés, qu'ils soient à l'aise devant ces différents types d'écrits. Et la littératie, c'est aussi être capable de dire. Quoi utiliser, comment l'utiliser, pourquoi je l'utilise. C'est-à-dire que la littératie, c'est aussi l'usage méta, l'usage secondarisé, c'est-à-dire je l'utilise de cette façon pour tel objectif. C'est-à-dire à la fois utiliser et avoir conscience qu'on l'utilise dans tel but. Voilà ce que c'est que la littératie. Donc c'est vrai qu'on pourrait déplier à l'intérieur un faisceau et des paliers en fait. Alors, le deuxième obstacle...
Bon, qui est un obstacle aussi répandu que le premier et que l'école a quand même largement contribué à cultiver, c'est l'idée que l'écriture est un don. Si l'écriture est un don, en tant qu'enseignant, en tant que didacticien, on peut tout de suite baisser les bras, puisque où on a le don, on ne l'a pas. Et peut-être une certaine manière d'enseigner la littérature et de, comme dit Anne Roche... Aix-en-Provence, de considérer ces grands autres qui sont les écrivains et de les mettre très à distance du scripteur ordinaire, une expression de Marie-Claude Panloup, fait que le scripteur ordinaire sent qu'il n'a pas le don, l'écriture étant d'ailleurs réduite à la littérature et que ça empêche tout progrès. Il y a une discipline, je voulais juste dire que l'écriture est un don, ça empêche aussi de voir qu'en fait, l'écriture, c'est laborieux, c'est artisanal. On travaille pour écrire. Et une discipline qui a beaucoup contribué à mettre en évidence et en exergue ce côté artisanal et laborieux de l'écriture, c'est une discipline récente, née, on est obligé de dire au siècle précédent, la génétique textuelle, des chercheurs de l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits, ont eu la chance d'avoir en héritage un manuscrit. J'avoue que j'ai totalement oublié le nom de l'écrivain en question, mais héritant de tous les manuscrits d'un écrivain précis qui permettait de comparer les premières traces de son écriture avec l'œuvre publiée. Pardon ? Je ne suis pas sûre que c'est Zola le premier. Ils ont beaucoup travaillé sur Zola et Proust.
Ça a été après, et ça a été les premières grandes études.
Oui,
mais ce qui a déclenché, c'est une anecdote. C'est-à-dire que...
Je ne crois pas, non.
C'est pas quelqu'un de connu.
Je crois que c'est quelqu'un de pas connu. C'est pour ça que j'ai oublié son nom, mais c'est pas
grave. Parce que c'est vraiment ce qui a lancé avant les travaux très célèbres sur Zola et Proust, qui sont les plus diffusés, les plus travaillés. Mais la petite anecdote que ma collègue racontait, c'est que avant cela, c'est vraiment un écrivain peu connu et
il nous semble.
Et ça a été un grenier, un vide grenier quasiment. Cette grande génétique textuelle a démarré vraiment au départ sur quelque chose de très anecdotique. Hein, voilà.
Bon, on peut citer...
Mais c'est Zola et Proust, les deux grandes études qui ont lancé la génétique textuelle.
Oui, et le livre de Grésillon qui a vraiment contribué à populariser les idées de la génétique textuelle. Donc l'idée, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête du scripteur quand il écrit ? C'est un peu une boîte noire. Alors il y a plusieurs manières d'avoir accès à cette boîte noire. Les travaux de la psychologie cognitive, d'une part, on n'est pas du tout spécialiste de psychologie cognitive, et la génétique textuelle, d'autre part, qui considère les manuscrits, les brouillons, comme des traces de l'activité du scripteur avant l'écrit publié définitif. Hein. Et effectivement, Grésillon et les travaux sur Zola sont particulièrement intéressants. Il y a un article de Grésillon qui est publié dans la revue Langage en 2002, que je fais beaucoup lire à mes étudiantes, je suis toujours obligée de dire mes étudiantes, parce que c'est une réflexion sur l'ébauche de Zola et on voit à quel point le scripteur dialogue avec lui-même lorsqu'il prépare son écrit définitif. Hein, Zola dit, par exemple, je vais faire tuer un tel par l'amant. Non, l'amant, ça ne va pas. Donc, une autre proposition. Et on voit vraiment ce dialogue extériorisé sur le papier. C'est passionnant. Mais bon, cette mise en valeur des brouillons, des manuscrits, et le fait que beaucoup de manuscrits sont très raturés, sont très travaillés, ce qui n'est pas le cas de tous, mais beaucoup sont très travaillés. D'une part, on a popularisé l'idée des quatre opérations de réécriture, ajouter, supprimer, déplacer et remplacer. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais surtout, on a émis l'idée que l'écriture et la réécriture étaient inséparables, c'était un seul processus. D'ailleurs, quand on écrit un premier jet, on ne peut pas s'empêcher presque de déjà raturer sur le premier jet en cours d'écriture. Et dans l'UE que j'anime, j'essaye de faire prendre conscience de ça aux étudiants. Après avoir mis l'accent sur les brouillons d'écrivains, et maintenant d'ailleurs sur les brouillons des théoriciens, il y a des travaux très intéressants sur les manuscrits de Benveniste qui montrent vraiment comment sa conceptualisation, on rejoint vraiment Goudy, hein, comment les concepts qu'il a créés sont nés de l'écriture et de son écriture et de son travail sur l'écriture. Ben, les didacticiens se sont emparés de cette génétique et ont porté l'attention sur les brouillons des élèves. Et donc, on a les travaux de Fabre qui a étudié justement notamment l'utilisation des différentes opérations de réécriture chez les élèves dans des brouillons d'écoliers. Et c'est là qu'on a pointé que le déplacement, ben, c'était difficile du point de vue cognitif, et qu'en CM2, justement, ce n'était pas l'opération la plus fréquente. Mais d'ailleurs, très longtemps, ce n'est pas l'opération la plus fréquente. Et même quand elle advient, c'est plus facile de faire des petits déplacements que des gros déplacements qui demandent beaucoup de recul cognitif pour se mouvoir dans son texte. Catherine Boré aussi a beaucoup travaillé sur les brouillons. Donc on s'est emparé de cette idée de brouillon, du côté artisanal de l'écriture, du fait que l'écriture, c'était un processus, et l'idée que la rature, c'était quelque chose que l'écrivain pratiquait, ça a permis de populariser dans les classes l'idée que la rature n'est pas un raté. C'est le titre d'un ouvrage dirigé par Panlou en 1994, et qu'on n'était pas forcément obligé de tout de suite prendre son... Comment ça s'appelle ? Son...
Ton effaceur.
Son effaceur, sa gomme, pour surtout avoir un brouillon propre, que le brouillon ne doit pas être sale. Hein. J'ai une étudiante qui, en lisant un texte de Lamotte sur les brouillons, a écrit dans son mémoire « On a sorti le brouillon des poubelles, on l'a réhabilité, on lui a redonné ses lettres de noblesse. Oui. »
Et sinon, dans le droit fil des généticiens, il y a aussi tous les travaux d'Olivier Lombroso qui propose une réflexion. Il va venir ici ou pas ?
Oui, il est déjà interné dans le précédent.
Ah bon, alors on répète peut-être quelque chose qu'il a dit.
D'accord, voilà, qui s'est emparé des travaux.
Mais d'une manière un peu différente.
Un peu différente, avec l'avant-texte, tout ce qui entoure le texte. Très, très intéressant.
Ah ouais. On va
avancer. Alors, on va passer donc à la diapo suivante. Tu l'as photographié.
Oui, alors, en fait, jusqu'ici, on a mis en exergue la notion de représentation, celle que Dabène a mise en avant. Mais déjà, au cours de sa réflexion sur la compétence scripturale, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se contenter de travailler sur les représentations communément répandues, comme celles que je viens de décrire, mais qu'on était obligé de s'intéresser à des aspects plus individuels. Et donc, il a introduit la notion de représentation individuelle. Et s'appuyant sur cette expression de représentation individuelle, des gens comme Panlou ou comme Barré de Mignac ont finalement choisi, et ça s'est popularisé, de mettre en exergue une notion plus vaste que celle de représentation, celle de rapport à l'écriture, étant entendu que le rapport à l'écriture inclut les représentations, mais n'inclut pas seulement des aspects cognitifs, mais aussi des aspects plus vastes, dont par exemple psycho-affectifs. On va revenir là-dessus.
Donc la notion de rapport à l'écriture est empruntée à l'origine aux sciences de l'éducation. C'est ce que rappelle Charlot en 1997, bien après les emprunts par la didactique. Et elle permet d'appréhender le sujet comme un individu dans sa relation complexe au savoir. Donc l'idée, c'est qu'on passe des représentations, quelque chose d'un peu familial, social, préconçu, préétabli, à quelque chose de plus individuel, en disant que dans un groupe social, chaque individu prend, laisse et n'est pas le pur produit et le pur reflet de son groupe social. Donc il y a un petit décalage et on insiste beaucoup sur un individu et sa relation. Donc voilà pour cette notion.
Bon, là on parlait de la notion de rapport à, et si on la rapporte à l'écriture, avant de prendre la définition du visuel, j'aimerais lire l'une des premières définitions qu'a donnée Christine Barré, qui est quand même une des pionnières des recherches sur le rapport à l'écriture. Hein. C'est quelque chose qui n'est ni l'écriture elle-même, alors un petit peu en contrepoint de Dabène, un peu différemment, ni les compétences stricto sensu, hein, savoir et savoir-faire, ni les performances en la matière, mais une liaison d'un sujet à un objet. Et c'est ça qui est intéressant. Ce rapport naît de colorations multiples, conscientes ou inconscientes, qui dirigent le sujet et le mettre en liaison avec l'écriture. Et donc, d'une façon plus abstraite, en 2000, elle l'a reformulé à peu près sous ces mots-là, ça renvoie à tous les liens psycho-affectifs, cognitifs, sociaux et culturels qui unissent le scripteur à l'écriture, ou pour le dire autrement, ça désigne l'ensemble des significations construites par le scripteur à propos de l'écriture, de son apprentissage et de ses usages. Et ces derniers termes sont particulièrement importants quand on se place du point de vue ou de l'élève ou de l'enseignant sur ce que c'est qu'apprendre à écrire, ce que c'est qu'apprendre à écrire dans les deux sens. Apprendre, moi, scripteur, à écrire et apprendre, faire apprendre, accompagner le scripteur si je suis enseignant. Hein, toutes ces significations construites sur l'écriture elle-même, sur son apprentissage, sur ses usages, ça va piloter ce qu'on va être capable de faire en écriture.
Et d'ailleurs, vous voyez, on parle, quand vous avez lu, quand vous entendez des conférenciers, vous voyez, il y a toujours le mot scripteur qui revient. Et il y a eu un moment dans l'histoire de la didactique de l'écriture où est apparu le terme sujet écrivant. Alors, bien évidemment, on peut dire tour de passe-passe, oui, non. Ce sont un peu des éclairages différents, le scripteur étant davantage du côté cognitif et sujet écrivant, prenant le sujet cognitif et le sujet psycho-affectif, puisqu'il y a eu un débat dans la didactique du français avec finalement qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'océan ou le continent que représente un apprenant. Donc en disant sujet écrivant, ça veut dire qu'on ne se focalise pas que sur des aspects cognitifs ou techniques.
Mais c'est d'ailleurs significatif qu'on est plutôt dans le... Enfin, personnellement, je suis vraiment plutôt dans le courant qui utilise l'expression sujet écrivant, mais pour cette conférence, j'ai eu tendance à employer scripteur parce qu'on s'est centré sur les aspects cognitifs, hein, et que ce n'était pas notre sujet de parler des aspects plus psycho-affectifs.
Et ce n'est pas Barret de Mignac, de toute façon, qui a introduit scripteur. Hein, c'est Dominique Bucheton. C'est
mais elle a aussi introduit sujet
écrivant. Et après,
écrivant.
Elle a mis... ouais. Et là, on a tous bon. les citations avec scripteur. C'est intéressant, cette singularité et la synthèse unique.
Oui, en 2002, quand Barret de Mignac est revenu sur tout son travail sur le rapport à l'écriture, elle s'est demandé pourquoi on préférait rapport à l'écriture plutôt que représentation. Et c'est vraiment l'idée du singulier qui a fait que rapport à l'écriture l'a emporté dans beaucoup de travaux sur la seule idée de représentation, parce qu'il y a cette synthèse unique que chaque scripteur opère avec les multiples liens qui l'unissent à l'écriture, et c'est jamais la même synthèse.
Alors, voici toujours notre figure qui évolue. Donc, cette fois, elle va simplement signaler que Barret de Mignac a développé le rapport à l'écriture en quatre sous-ensembles qu'elle intitule l'investissement, les valeurs, les représentations, la verbalisation. Et nous en retenons deux, les deux qui sont surlignés en blanc, les représentations et la verbalisation, qui sont, comme ma collègue disait, les aspects les plus cognitifs que nous retenons pour aujourd'hui. Alors, le rapport à l'écriture et le processus d'écriture sont deux notions clés de la didactique de l'écriture actuellement. Et d'ailleurs, Yves Retter considère que c'est un concept fondamental de la didactique. Alors, pourquoi ce sont des notions clés ? Eh bien, parce qu'elles permettent de percevoir la nécessité d'accompagner le sujet qui s'engage dans le processus d'écriture-réécriture. Alors, on est obligé de développer processus d'écriture-réécriture parce que si on dit d'écriture, on a toujours peur qu'on n'entende pas réécriture. Donc, pour nous, il n'y a pas d'écriture sans réécriture. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à dire le plus souvent possible écriture-réécriture, et voulant aussi souligner que ce n'est pas écriture puis réécriture. Dans une vision un peu simplificatrice où on voit cela pris dans le temps sous la forme d'une étape bien différenciée. Donc la réécriture est parfois, comme ma collègue disait tout à l'heure, au moment même de l'écriture. On ne peut pas dire il y a eu un moment d'écriture et de réécriture, mais elles sont tellement liées qu'on ne peut pas les séparer. Alors qu'on a eu tendance dans les classes à bien séparer le temps d'écriture et le temps de réécriture, comme si c'était dans une chronologie extrêmement différente.
Il y a peut-être une tendance à une réduction de réécriture à révision. La révision, ça existe, mais c'est une partie de la réécriture.
Et ces deux notions sont clés pour identifier des leviers didactiques. Hein. C'est ça qui est intéressant. Le rapport à l'écriture, le processus d'écriture permettent de réfléchir autrement à la didactique de l'écriture et peut-être à fournir de nouveaux outils d'accompagnement.
En fait, la diapo suivante met l'accent sur un outil, enfin sur un levier didactique auquel on ne pense peut-être pas tout de suite, c'est de s'intéresser au rapport à l'écriture des enseignants eux-mêmes, qui dans cette optique devient déterminant. C'est Christine Barret, toujours, qui est un peu pionnière dans toutes ses recherches, qui en 92 a publié un article sur le rapport à l'écriture des enseignants. Si enseigner, c'est accompagner le scripteur, si c'est l'aider à construire un rapport un peu différent à l'écriture, il est peut-être intéressant d'être soi-même, si on est enseignant, au clair avec son propre rapport à l'écriture. Et si on interviewe des enseignants, ce que fait Christine Barret dans son article, de voir que le rapport à l'écriture de l'enseignant influe, pilote aussi sa manière de faire écrire et d'accompagner l'écriture. Donc c'est tout simplement ça que cette, à quoi renvoie cette diapositive. Et certes, Christine Barré a été pionnière sur ses recherches, mais on ne peut pas dire que les recherches sur le rapport à l'écriture se soient largement focalisées sur le rapport à l'écriture des enseignants. C'est pour ça que dans notre étude, il nous a paru intéressant de nous pencher sur la question à propos d'enseignants de notre échantillon.
Et voilà, donc nous allons attaquer la deuxième partie, notre étude. Donc le contexte de notre étude, nous appartenons à un grand projet de recherche qui implique les universités d'Orléans et de Poitiers, qui s'intitule « Les conditions de la maîtrise de la production écrite ». Et dans ce vaste ensemble, notre étude concerne le rapport à l'écriture des acteurs du passage CM2-6e, parce que ce projet se focalise sur les moments de transition et de passage, grande section CP, CM2-6e, 3e seconde, lycée, université, et ensuite même les transitions professionnelles, donc d'autres équipes s'occupent dans les milieux professionnels. Alors, pourquoi CM2-6e a retenu notre attention ? Parce que c'est un moment clé, très révélateur, avec de difficultés qui se cristallisent autour des difficultés d'écriture. Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc notre étude qui concerne les 20 enseignants que nous avons interrogés. Nous n'allons pas du tout parler des 180 élèves que nous avons interrogé. On va s'intéresser donc aux 20 enseignants. Alors, je viens de le dire, le passage du primaire au collège est un moment clé en matière d'écriture. Le nombre et la quantité d'écrits augmentent, les fonctions de l'écriture se diversifient, les disciplines apparaissent, et ce qui nous paraît important, Lani Reuter, et Reuter l'avait dit en 2002, c'est que la fonction de l'écriture pour penser et pour apprendre devient centrale. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas, elle devient centrale et plus importante. Et pour répéter ce que nous avons déjà dit d'une autre manière, donc ce passage CM2-6e, c'est le moment où les élèves doivent entrer et réussir leur entrée dans une littératie étendue. Et notre question, c'est de savoir, est-ce que ce repositionnement important de l'élève, d'un point de vue cognitif et psycho-affectif, est pris en compte ? Est-ce qu'il est accompagné ? Ou est-ce que l'attention des enseignants et des corps d'inspection n'est pas finalement attirée par d'autres aspects ? Et est-ce que ce repositionnement autour de ce changement de statut du rapport à l'écrit est pris en compte ? Alors, bien évidemment, pour nous, ce repositionnement de l'élève nécessite un accompagnement en amont en CM2 et en aval en 6e. Et la question de notre étude, c'est à travers les questionnaires, à travers nos entretiens avec les enseignants, est-ce qu'il y a des traces de cette préoccupation et de ce projet ?
Et avec notre question de recherche, nous revenons aux enseignants. Hein, à travers ce que Didier vient de dire, notre question, c'est est-ce que les enseignants ont un rapport à l'écriture qui leur permet d'aider les élèves à faire ce repositionnement ? Pour le dire autrement, hein, dans quelle mesure le rapport à l'écriture des enseignants de CM2 et de 6e leur permet-il d'aider les élèves à apprendre à écrire et à entrer dans la littérature,
dans la littératie étendue.
Poser la question de cette manière-là, ça nous a conduit, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, à nous focaliser sur deux dimensions du rapport à l'écriture. Hein. Donc on abandonne pour cette communication, pas dans nos travaux, les aspects psycho-affectifs et la question des valeurs que Christine Barré-Dominiac a repéré comme pertinente, comme dimension du rapport à l'écriture, pour nous centrer sur les représentations. On a vu tout à l'heure que c'était important, hein, que si on s'imagine que l'écriture est un don, ou si on s'imagine que l'écriture, c'est uniquement transcrire du déjà-là, ça n'aide pas à entrer dans la littératie étendue. Mais aussi pour une quatrième dimension qu'elle a beaucoup commentée, on ne voyait pas tout de suite son intérêt, mais plus on se penche sur la question de l'écriture, plus on voit l'intérêt de cette question des modes de verbalisation. Il y a des représentations qu'on n'atteint pas directement. Quand on fait des études sur les représentations, on n'a que des déclarations. Les gens ne disent pas directement, je pense que l'écriture est un outil pour penser. On peut, à travers leurs propos, voir que peut-être ils ont une pratique de l'écriture qui leur permet de penser. Mais ils ne vont pas le dire directement. Et si plus c'est verbalisé, plus c'est conceptualisé, en tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on fait, donc on s'intéresse au mode de verbalisation. Si, réfléchissant sur leur propre pratique d'écriture, les enseignants conceptualisent qu'ils utilisent l'écriture pour penser, il nous semble que c'est porteur pour accompagner les élèves et les aider à utiliser l'écriture pour penser. D'où notre intérêt pour les représentations qu'on décèle, qu'on infère, qu'on suppose à partir des déclarations, et notre intérêt pour la façon dont nous apparaissent ces représentations, la façon dont les enseignants parlent de l'écriture et de son enseignement.
Alors donc, nous avons retenu trois secteurs pour notre analyse, donc RARE, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Réseau Ambition Réussite, un collège périurbain d'Orléans, un collège du centre-ville qu'on a appelé urbain, et un collège rural, donc à la limite du Val de Loire et de la Sologne. Et on a retenu pour aujourd'hui un échantillon de 12 enseignants, 6 de CM2 et 6 de collège. Et on a retenu 3 enseignants de français et 3 enseignants de SVT. Et comme disait ma collègue, donc on s'intéresse à leurs déclarations pour inférer des représentations à partir de ce qu'on appelle l'analyse de contenu avec des constellations de sens. Alors, une analyse qualitative des réponses à 2 questionnaires écrits, l'un relatif aux pratiques de classe et l'autre aux pratiques personnelles. Alors, pratique de classe, c'est l'enseignant qui fait écrire dans sa classe. La pratique personnelle, c'est à la fois écrire pour sa classe, écrire pour sa vie privée, pour sa vie administrative, tous les écrits en dehors de la classe, pour la classe ou autour de la classe, tout est compris. Voilà. Donc, il y avait 2 questionnaires bien séparés sur l'enseignant et sur l'individu enseignant.
Puis attention, là encore, on a accès aux déclarations des enseignants sur leurs pratiques, qu'elles soient de classe ou personnelles, oui. Mais on n'a pas accès aux pratiques. Au début de la recherche, dans l'enthousiasme du début du projet, on voulait aussi adjoindre une observation des pratiques. On le fera peut-être dans une autre recherche, mais on a déjà tellement de données que pour l'instant,
c'est difficile.
On se cantonne aux déclarations. Mais il faut spécifier que c'est des déclarations.
Et nous avons rencontré donc ces 20 enseignants et on a eu avec eux donc des échanges enregistrés numériquement. Alors, nos questions... quelles sont les conceptions qui sous-tendent les déclarations des enseignants? Donc, on l'avait déjà un petit peu annoncé tout à l'heure. À quelle fonction de l'écriture renvoient leurs propos? Quels sont les modes d'accompagnement des élèves évoqués par les enseignants? Donc, déjà, 3 questions. Quelle est la part de l'explicite, de l'implicite et du méta-réflexif dans leurs propos? C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est les modes de verbalisation, c'est-à-dire est-ce que je dis « je fais ça » ou est-ce que dit « je fais ça parce que je pense et dans tel but » et « je suis conscient de le faire quand je le fais, pourquoi je le fais, comment je le fais ». Donc il y a tout un étalonnage de paliers de l'explicite à l'implicite et « je fais sans savoir vraiment » ou « je sais en sachant que je fais ». Et cette part est-elle suffisante pour permettre aux enseignants de travailler les fonctions de l'écriture et notamment la fonction de conceptualisation, c'est-à-dire utiliser l'écriture pour apprendre, pour construire des savoirs, pour penser. Alors, les premiers résultats que nous vous présentons concernent donc les 3 fonctions de l'écriture. La fonction de mémoire externe, la fonction de conceptualisation et la fonction d'acquisition du code. Donc, nous allons revenir tranquillement sur ces 3 fonctions. Donc, c'est simplement une annonce.
Je fais juste une petite remarque. Didier a dit les 3 fonctions de l'écriture. Ce n'est pas les 3 fonctions de l'écriture en soi.
C'est
celle que nous avons identifiée dans les déclarations. Et la troisième, nous ne l'avions pas prévue aussi importante. Elle a surgi vraiment des déclarations.
Pas du tout même. Pour nous, on ne s'attendait pas à ce que l'écriture soit considérée comme permettant l'acquisition du code. Donc on avait des attentes, on avait des hypothèses, mémoire, conceptualisation, c'est vraiment ce que nous cherchions. Et nous avons eu beaucoup d'énoncés sur l'acquisition du code. Donc ce ne sont pas en soi les fonctions de l'écriture, c'est celles que nous avons trouvées. Et la deuxième partie, donc, ce sera le processus d'écriture, réécriture et l'accompagnement du sujet écrivant. Donc voilà deux sous-parties dans cette présentation des premiers résultats. Et nous avions fait une communication et rédigé un article en 2010 déjà sur une partie de ces éléments. Et ça doit paraître.
Non, si c'est 2010, c'est la communication, pardon.
Ça doit paraître sous forme d'article, oui. Mais pour l'instant, il n'y a que la communication et les actes du colloque. Alors, la fonction de mémoire externe dans les déclarations relatives aux pratiques personnelles, dans le premier questionnaire. Alors, parler de fonction de mémoire externe, ça permet de souligner le geste de l'individu qui soulage sa propre mémoire grâce à l'écriture, qui dispose des données pour les conserver en dehors de lui, sur d'autres supports, ce qui permet d'étendre ses capacités mémorielles. Alors ça, on s'attendait à trouver cela, et on l'a bien trouvé. On a donc eu beaucoup d'énoncés, des déclarations sur la fonction d'archivage.
Juste le code, hein, c'est E, c'est enseignant d'école. Et FR et SVT, c'est quand il s'agit du collège.
Donc, fixer la mémoire, garder des traces. Donc, on a eu beaucoup garder, conserver. Voilà, on a eu donc des faisceaux autour de l'archivage et de la mise en mémoire avant de faire cours. Un pense-bête, une mémorisation. Et à partir de là, on s'est aperçu que finalement, dans la classe, on retrouvait l'archivage, la mise en mémoire après le cours, avec l'importance des traces écrites, hein, c'est-à-dire que la trace écrite est un souci énorme dans le premier degré, dans les formations du premier degré. Qu'est-ce que je dois faire écrire? Qu'est-ce qu'on doit conserver par écrit? Quelle sera la trace écrite? Donc, on revoit très vite l'importance, hein, de cet archivage et de ce stockage. Donc, ce n'est pas dans quel but, mais c'est surtout réaliser cette trace écrite. Alors, les objets sinon conservés par les enseignants tournent autour d'objets personnels, mais beaucoup autour des traces des cours. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé sur cette fonction de mémorisation qui est très souvent à la frontière de la conceptualisation, puisque les enseignants déclarent conserver des cours, conserver des traces pour repenser et améliorer leurs cours. Et là, on voit bien que ce n'est pas un simple archivage, c'est un instrument pour penser, ce qui nous permet d'introduire la deuxième fonction.
Oui, mais dans le... Je reviens en arrière. Dans les déclarations relatives aux pratiques de classe, on n'en est pas totalement sûr, mais il nous semble que cette frontière n'est pas placée exactement au même endroit. Parce que quand on a interviewé en entretien semi-directif, notamment un enseignant de SVT, sur ce que c'était ce bilan qu'on faisait à la suite de la leçon de SVT, et ce que c'était que cette copie du tableau, il y avait très peu de part active de l'élève. C'était beaucoup recopier le bilan qui était au tableau sans que l'enseignant semble faire allusion ou renvoyer réellement à une construction des connaissances par l'élève. Mais bon, ça reste une interrogation. Ça reste une interrogation. C'est une personne qu'on a interviewée, on ne généralise pas du tout, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que la pratique de l'enseignant, pour lui, se répercute dans la classe? Et ça se voit plus au niveau des déclarations qui sont plus explicitement relatives à la fonction de conceptualisation. Parce que, à propos de leur pratique personnelle, les enseignants déclarent écrire pour structurer leurs cours, pour l'organisation de mes séances de cours, construire des cours, mettre en ordre des idées, pour planifier, avoir une vue d'ensemble, pour structurer leur pensée et la mettre en distance. On est vraiment dans l'écriture un outil pour penser, même s'ils ne le disent pas explicitement. Hein. Quand j'ai un projet à rédiger, je passe d'abord par une phase de brouillon. Je ne peux pas faire ce travail d'organisation directement. Ça me permet de structurer ma pensée, de l'organiser. Donc, ce qu'on voit, en tout cas, même si les enseignants ne nous ont pas dit « Oh, c'est important, la fonction de conceptualisation, l'écriture pour penser », on a eu l'impression dans beaucoup de déclarations que ça renvoyait à une pratique vivante de l'écriture pour penser, quand il s'agissait d'eux personnellement. C'est un peu ce qu'on dit là, hein, dans leurs déclarations. Bon, les enseignants, c'est des gens qui ont été à l'école longtemps, qui sont entrés eux-mêmes pour avoir leur concours et pour réussir leurs études dans un usage littéracier du langage, et leur pratique quotidienne en témoigne. Hein, ils réfléchissent en écrivant. Ils disent, hein, on est dans les déclarations, ils disent réfléchir en écrivant et ils disent avoir l'impression de mieux penser quand ils utilisent l'écriture. Mais, là, pour les pratiques de classe, on n'a rien à présenter qui va dans ce sens. On n'a relevé aucune déclaration qui, dans la pratique proposée aux élèves, semblait renvoyer au fait qu'on les mettait en situation d'écrire pour structurer leur pensée. On n'a pas relevé dans notre échantillon petit. Hein. C'est ce que tu devais mettre là.
Excuse-moi.
Voilà.
Alors, la troisième fonction... Donc révèle l'importance accordée au code à propos des élèves. Donc sensibilité des enseignants avant tout à l'orthographe, à la ponctuation, à la syntaxe, quel que soit le texte produit et quelle que soit finalement la discipline. Au collège, le professeur de SVT va rechercher des phrases simples, correctes, qui respectent l'orthographe et les règles de grammaire. C'est aussi important que le contenu. Les critères d'évaluation des professeurs de français, quand on leur demande, ben, ils vont vérifier qu'il y a bien une majuscule au début d'une phrase, que l'orthographe est respectée, la ponctuation, le soin, importance de l'écriture, de la calligraphie, respect de la grammaire, une expression correcte, et un autre dira syntaxe, orthographe, grammaire en toute simplicité et pour aller très vite. Voilà, hein.
Il y a une anecdote, enfin plutôt quelque chose qui s'est passé pendant un entretien qui est assez révélateur de ça. On a interviewé un enseignant de SVT et comme on lui a dit qu'on faisait, on a dit quelque chose de très large, on a dit on fait une enquête sur l'écriture, il a dit oh ben je me sens pas, enfin il n'a pas dit je me sens pas légitime, mais il a dit moi l'écriture, je suis professeur de SVT, c'est pas, je connais
c'est
pas bien.
C'est pas mon affaire.
C'est pas mon affaire le français. Et on a essayé de ramener à la question de l'écriture et il a ramené à la question de l'orthographe. Hein. Donc il n'était pas légitime parce que pas légitime en orthographe en fait.
Donc les difficultés repérées, l'orthographe et la structure des phrases souffrent. Les élèves ont envie de dire des choses mais il n'y a pas d'orthographe. Et dans la question, quand on a dépouillé la question sur les difficultés des élèves, donc on a une trentaine d'énoncés un peu différents, et il y en a 16 qui sont entièrement consacrés à des difficultés de langue. Hein, c'est-à-dire que vraiment, l'écriture, ce qu'il faut acquérir, que l'écriture permet d'obtenir, c'est le progrès en grammaire de phrase. Et on n'aborde pas du tout, d'ailleurs, des questions d'ordre textuel. Hein. On est toujours dans les limites d'une grammaire de phrase, du point de vue des difficultés. Et pour aller un petit peu ailleurs, les difficultés, il y en a quand même 10 réponses autour de la peur, la motivation, le manque de confiance, le coût du travail, que l'écriture, c'est tellement fastidieux que les élèves et l'enseignant ont du mal à s'y engager. Et là, on a une dizaine de réponses. Mais ce qui ressort donc à chaque fois, c'est, et qui semble faire écran, c'est la fonction d'acquisition du code.
Alors, avec le titre « Le brouillon », on aborde l'autre question à laquelle on souhaitait répondre, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait surgir de l'accompagnement du sujet écrivant et de la question de l'écriture et écriture. On a explicitement utilisé le mot « brouillon » dans les questionnaires et pas le mot « écriture et écriture » ou pas ces expressions pour ne pas induire des réponses, parce qu'on savait que le brouillon était utilisé dans les salles de classe, était une notion qui circulait. Et donc, on voulait voir ce qui surgissait à partir de l'expression « le brouillon ». Si on se réfère aux pratiques personnelles, tous sauf un enseignant déclare utiliser le brouillon. Mais on peut lier ça à ce que Daben appelle l'insécurité scripturale généralisée, c'est-à-dire que tout scripteur, quel que soit son niveau, même expert, a toujours peur de montrer son écrit, enfin, a toujours l'impression que son écrit va être soumis au jugement social, au regard des autres. Et quand les enseignants déclarent utiliser un brouillon, c'est généralement pour des écrits, effectivement pas des écrits intimes, mais des écrits soumis au regard social. Et là, on a trouvé cette déclaration d'un enseignant d'une école rurale, là, très intéressante, quand j'y ai fait allusion tout à l'heure, quand il signale lui-même que finalement, l'écran de l'ordinateur est un brouillon. Je mets rarement ça en forme, donc tout est brouillon. Pour nous, ça renvoie à la question qu'on a soulevée tout à l'heure du fait que les nouvelles technologies, et l'ordinateur en particulier, brouillent les frontières. On ne sait plus où sont... Comme dans la génétique textuelle, par exemple, on distinguait deux versions par le passage d'un support à un autre. Là, il n'y a pas de passage de support. Bon, alors on a encore la notion de campagne d'écriture pour distinguer les versions. Je sais que nous, quand on écrit des articles, à chaque fois qu'on change de moment, on garde tout et on écrit V1, V2 à chaque campagne d'écriture. Mais c'est plus difficile de distinguer la réécriture en cours d'écriture de la réécriture d'une version à l'autre. Et puis, selon sa façon d'écrire, si on est plutôt du côté des scripteurs qui ont une écriture à processus, comme nous on l'est, on n'écrit pas une première version aboutie, puis une deuxième version ensuite. Le texte se construit au fur et à mesure de l'écriture, alors que si on est plutôt dans le cadre d'une écriture à programme, on aura nettement une écriture première version et une écriture deuxième version. Et c'est vrai que l'ordinateur brouille un peu les frontières, et c'est une remarque assez subtile de cet enseignant.
Oui, je trouve que l'écran de l'ordinateur est un brouillon, c'est intéressant.
Ça permet de voir que dans les représentations, il n'y a pas du tout que des obstacles, mais qu'il y a des points d'appui qui peuvent permettre de faire évoluer les représentations.
C'est une représentation, point d'appui, celle-ci.
Enfin, c'est une déclaration relative.
Oui, relative aux représentations. Il y a des raccourcis.
Oui, alors dans les pratiques de classe, les déclarations tournent à peu près autour de ça. Ils font toujours un brouillon, systématiquement un brouillon, quel que soit le type d'écrit. Comme les déclarations tournaient beaucoup autour de « ils font toujours », on s'est posé les questions suivantes.
S'agit-il
de s'assurer,
de voilà.
Déclarations, est-ce qu'il s'agit de s'assurer que l'élève fait un brouillon parce que c'est une injonction et qu'il faut que l'élève fasse un brouillon et qu'il faut pouvoir dire qu'il existe, ou est-ce que ça témoigne vraiment d'une prise de conscience de l'existence du processus d'écriture-réécriture? Là, la déclaration d'un enseignant de sciences nous paraît intéressante. La fiche d'expérience a un statut de brouillon. Peut-être qu'il y a une perception de l'écrit pour penser, voilà, enfin c'est...
Avec l'idée d'un avant-texte, que le texte, le premier, n'est pas forcément, ne correspond pas à l'écrit définitif, ça ne lui ressemble pas. Et donc cet enseignant, par sa déclaration, montre que, ben oui, est-ce qu'on fait un brouillon dans votre discipline? Donc il voit le brouillon de la rédaction, il a tendance à dire non, puis après il dit, ah oui, mais la fiche d'expérience, c'est ça le brouillon. Et là, on a trouvé que cette déclaration était intéressante, c'est-à-dire que pour lui, il y a vraiment un processus. Vraiment.
Mais en dehors de quelques déclarations, on constate un petit peu le même hiatus qu'à propos de la fonction de conceptualisation entre les pratiques personnelles et les pratiques de classe. Il y a une pratique vivante du brouillon qui est déclarée dans les pratiques à propos des pratiques personnelles. Et dans les pratiques de classe, on a plus une interrogation, est-ce que c'est une pratique vivante ou est-ce que c'est une réponse à une injonction? Alors, on reste sur la question.
Okay, ouais. C'est demander si le brouillon ne devenait pas un genre scolaire. Alors, l'accompagnement du processus d'écriture.
Eh bien, dans les déclarations, c'est très présent avec des expressions significatives que tu peux afficher. Reviennent les mots guide, animateur, ressource langue, régulateur, co-évaluateur. L'enseignant dit faire des interventions sur les brouillons en phase de réécriture, amélioration. Le petit bémol, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, que toutes ces interventions de guide, d'animateurs sont essentiellement déclarées, être faites pour aboutir à un écrit correct. Reformulation de l'énoncé, mise en évidence des erreurs au niveau orthographe-grammaire, plus que dans l'idée de construire le texte, aider à construire le texte au fur et à mesure qu'il se construit. Et cette conception qu'on suppose de l'accompagnement va avec des difficultés qui sont exprimées, puisqu'ils expriment avoir du mal à faire revenir sur l'écrit. Hein. Les élèves ne relisent pas, ne vérifient pas, ils écrivent, mais ne préparent pas. Et une petite remarque, un tout petit peu décalée par rapport au reste, hein. considérant le caractère intime que peuvent avoir certains écrits, l'idée d'accepter de ne pas corriger des erreurs, qui est un petit peu en marge de tout ce qui a été dit, mais qui ne débouche pas. On n'a pas vu de déclaration qui débouche sur le fait de faire autre chose que corriger des erreurs, dans ce qu'on a relevé. Bon, ceci dit, en situation, on a beau avoir des représentations avec des recherches et tout, quand on est en situation qu'on reçoit des mémoires ou des copies, c'est plus facile d'aller sur le micro que sur le macro. Ça demande un effort intellectuel plus grand, et si on est fatigué, oui, on va vite voir le S qui manque, mais de s'abstraire de ce S qui manque pour se demander si l'étudiant a pensé, ça demande un effort supplémentaire. Comment il a pensé, etc.
Et on voit aussi avec le mot « retour sur l'écrit », comme je disais tout à l'heure, le problème toujours des étapes. Hein, c'est-à-dire que vraiment, il y a l'écrit, puis le retour sur l'écrit. Et donc, c'est toujours la grande question, est-ce que la réécriture ne vient pas trop tard, complètement séparée du processus même d'écriture. Alors, en guise de conclusion, on peut dire qu'il y a peu de différences significatives du point de vue des fonctions de l'écriture interrogée entre, finalement, les enseignants de 6e et les enseignants de CM2, et, chose curieuse, même entre les différents secteurs. Donc, il y a des différences, mais elles ne sont pas comme on s'attendait à les trouver. Alors, ce qui nous a frappé, c'est que la maîtrise du code apparaît centrale dans les préoccupations. Alors, c'est vrai que au-delà ou en deçà d'un certain seuil, d'un certain palier, l'accès à la littératie étendue est impossible. Donc, on ne remet pas en question le caractère nécessaire et indispensable de cela. Et on pense qu'en effet, en deçà d'un certain seuil. Et la question qu'on se pose, mais c'est comment justement évaluer ce seuil, comment ne pas enfermer non plus certains élèves qui n'ont pas lieu d'être enfermés dans ce souci du code, alors que eux seraient prêts à rentrer et à entrer en littératie étendue. Donc notre question, c'est que finalement cette focalisation sur la maîtrise de la langue finalement ne permet pas du tout de voir autre chose. Et ce souci des enseignants passe du côté des élèves, puisque on avait dit que nous n'en parlions pas, mais nous avons quand même dépouillé un certain nombre de questionnaires, et les élèves, alors eux, ne parlent que d'orthographe-grammaire.
Mais à propos de ce souci du code et du fait qu'en deçà d'une certaine maîtrise du code, on ne peut peut-être pas accéder à un usage plus intéressant de l'écriture. On a vu un article récemment, on y a pensé dans le train, c'est pour ça que j'ai la référence, de Crinon qui pratique un journal de mise à distance avec des élèves vraiment en difficulté par ailleurs, et qui, par tout un dispositif, rend cette pratique accessible à des enfants par ailleurs en grande difficulté. Et il y a vraiment des retours méta-réflexifs intéressants.
Mais bon, oui, c'est quasiment une écriture réflexive, qui est mise en place.
Mais petit à petit, très progressivement, dans le cadre d'un dispositif très précis.
Parce que Daniel Manès avait fait des enquêtes en disant que c'est vrai que c'était une préoccupation centrale qui devait l'être. Mais la question, c'est jusqu'où et pour
le
tout.
Reste,
voilà,
oui.
Et voilà. Et on pourrait dire que le rapport non littératié des élèves à l'écriture n'est pas identifié comme une source de difficulté. C'est-à-dire que si les élèves ne réussissent pas dans le domaine de l'écriture et dans la production d'écrits, ça n'est pas du tout parce qu'il manque un repositionnement, manque de visibilité des fonctions d'écriture. Qu'est-ce qu'écrire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'usage secondarisé de ce langage écrit? Les enseignants n'en parlent pas. Il n'en a pas conscience, on va dire. Hein, Ce n'est pas identifié comme une source de difficulté. Les difficultés sont toujours ailleurs.
D'où nos perspectives qu'on place un peu du côté de la formation et de l'auto-formation, d'ailleurs. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'exclut pas du tout de cette réflexion nécessaire sur notre propre rapport à l'écriture. Donc, des dispositifs de formation pour aider les enseignants à prendre conscience de leur rapport à l'écriture et à l'analyser. À notre sens, on a ça à faire toute notre vie d'enseignant. à faire évoluer nos modes de verbalisation et leur mode de verbalisation de l'écriture et de son apprentissage. Même dans une perspective de recherche, au fur et à mesure des recherches, on a nous-mêmes fait évoluer notre propre mode de verbalisation de ce que c'était l'écriture. Et du coup, on ne fait pas écrire exactement de la même façon. Mais comme on a des représentations anciennes, très enracinées, il arrive que dans des situations d'enseignement qu'on a moins conceptualisées, on revienne à nos vieilles conceptions sans s'en rendre compte. Hein. Donc c'est un travail permanent.
Et on pourrait dire aussi qu'on pensait au poids de la parole de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il dit, il y a son commentaire. Et on pense qu'il fait passer des opinions, des croyances, des représentations au-delà même de ce qu'il propose comme activité à ses élèves. Et donc ne pas du tout avoir conscience de notre propre rapport à l'écriture et de notre propre conception de l'écriture, eh bien on a certainement une parole évaluative, des conseils qui ne sont pas les mêmes que si on en avait pris conscience. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faudrait davantage prendre en compte cette dimension, parce que la parole de l'enseignant est extrêmement prescriptive, surtout quand elle est à la limite du conscient, on pourrait dire.
Et donc, identifier les fonctions de l'écriture et notamment le rôle de celle-ci dans l'élaboration de la pensée. Et en relisant le visuel qu'on vous propose, je me dis qu'on est allé un peu en deçà de notre propre pensée, parce que je pense que ça suppose une pratique de l'écriture et une réflexion sur sa pratique. Et c'est vrai que si on a souffert sur un écrit, pour nous, pas lié forcément à notre pratique de classe, et qu'on a pu jubiler à certains moments d'avoir eu l'impression de construire un petit quelque chose, c'est plus facile de le faire passer aux élèves que si ce n'est pas une pratique vivante dont on a conscience, parce qu'on a vu que les enseignants en avaient une pratique vivante.
Merci. Désolé. Merci. Merci.
Merci.
Voilà, on va vous laisser la place. Quelques questions. Très bien, au contraire. Oui.
Y a-t-il des questions ?
Des remarques.
Ou des remarques ?
C'est très dur.
Il y a une dame derrière.
Pardon.
Il faudra que j'enlève ma clé, mais je ne vais pas l'enlever brutalement.
Il faudrait multiface.
De toute façon, je n'ai rien dessus.
Alors, je suis dans l'élémentaire donc, et la maternelle. J'ai beaucoup d'enseignants qui, à la fin d'une étude d'une notion, termine par une trace écrite où les élèves trouvent les mots qui manquent. Qu'en pensez-vous de ce type de rédaction ? C'est-à-dire qu'on a un enseignant qui essaye de créer un oui. rapport à l'écrit mémoire des savoirs, et puis finalement ça devient un exercice à trous.
Ben oui, oui, oui. Il s'agit de stocker, de mémoriser, de repérer les notions clés d'un autre côté. On ne peut pas dire que ce soit ou on soit dans un processus d'écriture et de construction des savoirs, non.
C'est autre chose.
C'est autre chose.
C'est pas inutile.
Mais voilà, ça n'est pas inutile, mais c'est l'idée qu'on n'est pas du tout dans le processus de cette...
La dictée à l'adulte.
Voilà, ça serait mieux que ce soit les élèves, mais ça, c'est... chronophage, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que ça prend un temps infini. Mais ce serait bien de... Voilà, ça serait bien de... Voilà. C'est-à-dire que ça ne soit pas systématiquement... Voilà, il faudrait le faire...
Une fois par jour sur une
matinée. Voilà. Ah, ben, ça, ce serait... Ah oui, là, alors là... Non, mais franchement, je crois qu'on changerait beaucoup de choses, oui. Une fois sur une matinée. Voilà. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, malheureusement. Mais oui... Une fois par jour sur une matière. Ouais. De construire tous ensemble au ralenti et de dire ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Ouais. Dès le plus jeune âge, avec une attitude et oui, un repositionnement. Tout à fait. Vous avez donné la réponse en maintenant votre question, c'est bien. Il faut continuer dans ce sens.
Juste pour dire que c'est peut-être là que l'opposition ordre scriptural et ordre de l'oral est intéressante, parce qu'on peut, par le biais du canal oral, faire un travail quasiment qui fait rentrer dans l'ordre du scriptural avec les enfants maternels.
Oui, là on est passé, c'est vrai, parce que bon, on ne va pas parler des heures, mais cette distinction entre le canal et l'ordre langagier, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut rentrer dans l'ordre du scriptural avec des activités orales. Et c'est ça que parfois on ne perçoit pas toujours. On en a plus ou moins conscience. on rentre, oui. Parce qu'il faut prendre de la distance, essayer de le reformuler autrement et de le mettre dans un espace, tout à fait, ça y est.
On n'est pas dans l'oral quotidien.
On n'est pas dans l'oral, on passe tout à fait à autre chose, ça y est. On est dans l'autre ordre langagier. Ouais.
Je pense qu'il va falloir abréger, parce que sinon on va encore trop déborder.
Déborder, oui, oui.
La dame avait levé la main avant que j'intervienne, donc je lui donne le micro, puis on arrêtera là, parce que sinon on va encore être trop en retard.
Oui, alors j'ai été très intéressée par votre présentation et j'ai moi-même travaillé donc avec Christine Barret de Mignac dans le cadre d'une recherche sur les écrits dans les disciplines également. Et on avait fait un recueil de données d'enseignants et d'élèves de troisième et de lycée professionnel. Et alors, ce que vous avez présenté sur le rapport à l'écriture des enseignants, ça présente donc un point de vue, enfin une facette des pratiques d'écriture en classe dans le secondaire. Et moi en particulier, je m'étais intéressée aux formes et aux représentations des élèves. Donc ça complète complètement et ça va exactement dans le même sens de ce que vous venez de présenter. C'est-à-dire que quand on demande aux élèves... alors discipline par discipline, donc on avait distribué des questionnaires et on leur demandait en SVT, lorsque tu écris, qu'est-ce que tu fais? Alors il y avait tout un tas d'items, quand tu lis, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et j'avais fait la synthèse un peu de toutes ces réponses d'élèves et j'avais montré qu'en fait on voyait apparaître quatre dimensions de l'écriture dans les différentes disciplines. Et ça rejoint ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que les deux premières dimensions étaient complètement envahissait tout l'espace, c'était l'écrit de normalisation, ce qui permet d'être en règle, en gros, de bien écrire, de produire des écrits propres, lissés, voilà, sans faute d'orthographe. L'écrit de rétention, qui permet de conserver le discours oral, donc il y a tout l'enchevêtrement oral-écrit, comment on construit les connaissances. Donc ce souci de garder une trace de ce qui a été dit, de garder la trace de ce qui a été écrit au tableau.
Tout
voilà.
À fait, ouais.
Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ça envahit tout l'espace.
Voilà, ça envahit l'espace.
Et puis, il reste un tout petit espace pour, ce que j'avais appris, l'écrit d'appropriation, c'est-à-dire des formes d'écriture où on sent que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appropriation. Je réécris avec mes mots, je prends du temps pour ruminer. Bon, c'est très, très marginal et souvent... Ça fait référence à ce qui se passe plutôt à la maison, d'ailleurs, qu'à l'école. Et puis, l'écrit de distanciation, donc tout ce qui fait référence à j'écris en SVT ou en maths ou en français, ou pour expliquer, pour justifier, pour comprendre, etc. Et également, une dimension fort, qui tient peu de place. Et ça m'avait beaucoup interpellée et ça rejoint vraiment ce que vous venez de présenter ici.
Bon, ben, ça, ouais. Très bien, merci.
C'est d'ailleurs très intéressant de l'entendre avec d'autres mots.
Avec d'autres mots, oui.